le meilleur de la musique à la radio.
Le nez sur la radio, qui répète qu'il fait chaud.
But when I turned on my radio, I found out all I needed to know.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Je crois que j'ai revu la radio.
All we hear is Radio Caca.
This is Radio Caca. Some pirates are alive.
Et les radios chantaient.
Et les radios chantaient.
Radio.
Radio Caca. Radio Caca.
I don't turn on the radio.
Même si tu allumes la radio, ce sera jamais.
Radio.
Jamais.
Manque de programme.
Je m'ennuyais comme d'habitude dans ces réunions politiques où tous ces hommes politiques bavardent en disant qu'ils sont contents des résultats.
Progressivement, le mouvement d'indépendance fait son chemin, nous le voyons. J'ai fait moi-même des propositions à d'autres époques sur d'autres types de compositions de ces autorités, de façon à ce que ce soit véritablement des autorités arbitres totalement indépendantes du pouvoir politique. Je crois que c'est l'intérêt de mettre la télévision, les radios, l'espace hertzien, un espace de liberté, luxe, totalement hors la main, hors la patte des hommes politiques. Je me suis battu, c'est vrai, depuis longtemps.
J'ai 10 ans ou l'histoire de France par la bande FM, une entreprise d'utilité publique véritablement facturée à Europe 2 et le quotidien Le Monde. Chapitre 11, la politique et la FM ou l'art d'accommoder les restes. Voilà ce que l'on peut entendre aujourd'hui sur certaines radios commerciales et quelques périphériques. C'est une publicité, mais pas n'importe quelle publicité.
Nous avons imaginé les Hauts-de-Seine de l'an 2000. Nous avons voulu un département plus proche, plus vivant. Nous avons voulu un département plus humain, avec des idées nouvelles pour améliorer encore la qualité de la vie. C'est la charte 92. Maintenant, c'est à vous de juger.
Habitants des Hauts-de-Seine, vous avez reçu chez vous la charte 92. Pour nous répondre, vous avez jusqu'au 30 juin.
Mais non, ce n'est pas un imitateur, mais oui, c'est bien lui, Charles Pasqua, dans une pub pour le Conseil Général des Hauts-de-Seine, ce qui, dans le fond, est plutôt naturel dans la mesure où c'est lui le président. Ce qui est moins naturel, c'est la forme, car il est excessivement peu banal d'entendre un homme politique à la radio en France communiquer de cette façon-là. Toujours est-il que ces dernières années, les rapports entre les médias en général et les hommes politiques ont considérablement changé. Première évidence, bien sûr, la bande FM y est pour quelque chose. Deuxième évidence, les raisons qu'ont eu les politiques d'agir sur la bande FM a bien sûr considérablement modifié son histoire, mais les radios, en retour, les ont un peu obligés à sortir de leurs tics et de leurs habitudes acquises depuis, dans certains cas, un certain nombre de dizaines d'années. C'est donc ce type d'interaction qu'on va essayer de regarder dans cette émission-là, en revisitant point par point les éléments clés de cette histoire bizarre, magique et en l'occurrence politique de la FM. Et l'on va découvrir, et je suis sûr que ce sera une énorme surprise, qu'à la fin de ce parcours, on sera bien obligé de constater que dans la vie et à la radio, tout ou presque est politique. avant de démarrer le voyage, portrait du paysage politico-médiatique dans le milieu des années 70 par Annick Cogent.
Le paysage politique des années 70 est désespérément figé. Parti de droite et parti de gauche se regardent en chien de faïence, ennemis inconciliables, résolus à une lutte sans merci. Dominatrice et méprisante, accrochée au pouvoir jusqu'à se persuader d'une légitimité quasiment historique, la droite tremble à chaque élection. Les législatives de 78 lui ont valu de vraies angoisses et la perspective des présidentielles de 81 la crispe et la fige sur toutes ses positions. La gauche se sent le vent en poupe. L'Union est chaotante, mais les attaques tous azimuts contre Giscard le Magnifique fédèrent ses composantes qui fustigent d'une même voix ce gouvernement jugé archaïque, affaibli, réactionnaire. Les idéologies sont alors vivaces et la grande tourmente des pays de l'Est n'a pas encore lacéré l'étendard du communisme. L'analyse du paysage ne permet donc aucune ambiguïté. L'échiquier politique compte deux pôles bien distincts qu'aucun consensus ne peut rapprocher. La question du monopole de la radiodiffusion étant l'une des rares exceptions. Giscard est pour, bien sûr. Trop commode de contrôler tous les médias audiovisuels, d'avoir son mot à dire sur la moindre nomination dans les rédactions de télé et de pouvoir sanctionner une revue de presse irrévérencieuse ou de décourager les tentations de persiflage. L'idée des radios libres est donc insupportable. Et si le raisonnement cadre mal avec la philosophie du libéralisme avancé, il suffit d'évoquer l'exemple italien, démonstration vivante, selon Raymond Barre, que les radios libres sont de la graine d'anarchie. La gauche se montre plus ambiguë. Le PC est figé et approuve les radios de lutte uniquement comme outil éphémère de déstabilisation du pouvoir. Mais en situation normale, le monopole des ondes a sa nette préférence et le service public est la meilleure des choses. Le PS est plus ouvert, mais juge inutile et dangereux l'éclatement du système. Le pouvoir n'est plus hors de portée et il se pourrait bien que la jouissance du monopole soit un jour fort plaisante. Il faudra sans doute l'aménager, le décentraliser, mais l'audiovisuel est une chose trop dangereuse pour être confié entre les mains du privé. La tension du débat politique, la crispation du président Giscard d'Estaing sur l'audiovisuel et le détournement évident du monopole au profit de la droite feront basculer les socialistes dans le clan des pirates.
Aujourd'hui, les cahiers du Mégahertz accueillent Philippe Mestre.
Bonjour Philippe Mestre.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue en ces cahiers du Mégahertz où vous succédez à Olivier Stirn et où vous précédez Pierre Juquin. Les cahiers sont diffusés à Paris, bien sûr, sur 988 FM et puis aussi en province sur des antennes qui sont chaque semaine plus nombreuses. Bonjour en particulier à nos auditeurs de RFM 101 à La Roche-sur-Yon, vous connaissez je crois Monsieur Mestre, FIJ à Lille, Stan FM à Nancy, Fréquence Soleil à Toulouse, Pacifique FM à Bordeaux, Forum 92 Marseille, RTE Le Mans et Alençon, Radio Calibre Dijon, Radio Oxygène Rouen et Radio Campus à Grenoble. Alors Philippe Mestre, faut-il rappeler qu'avec vous nous accueillons un grand serviteur de l'État, un préfet devenu homme de cabinet et qui est aujourd'hui une vedette à part entière de la vie politique, pour ne pas dire du microcosme. Les Français savent que vous êtes proche de Raymond Barre, c'est le moins qu'on puisse dire, plus proche encore que ça, ne dit-on pas que vous êtes l'éminence de fer de l'ancien Premier ministre, ça c'est un mot qui n'est pas de moi, mais qui est de Joseph Massescaron du Figaro, journaliste au Figaro, qui vous interrogera également durant cette émission. Vous êtes le bariste en chef, le bariste numéro un, c'est ça ?
Oui, je ne pense pas qu'on puisse numéroter les baristes, d'ailleurs ce serait très difficile, il y en a trop.
Oui, monsieur Mestre, bonjour. Tout de suite une question sur l'actualité chaude, celle qui défraye la chronique, à savoir les propos de Charles Pasqua, les intentions de Charles Pasqua à l'égard d'une certaine presse. Ma question est la suivante. On a beaucoup entendu les libéraux hier, qu'on fait tout de suite savoir qu'ils étaient hostiles aux propositions de Charles Pasqua, qui est d'ailleurs un peu revenu en arrière, mais on n'a pas trop entendu la musique bariste sur ce sujet. Alors moi je voudrais l'entendre tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Mestre, des initiatives de monsieur Pasqua sur ce terrain?
Moi je suis tout à fait opposé à la censure et à toute espèce de censure. C'est un premier point. Mais deuxièmement, je voudrais aussi qu'on accepte, je crois que on l'accepte en général, à la fois dans le monde politique et dans le monde tout court, qu'il faut que la jeunesse soit relativement protégée sur le plan moral. Et que là, il y a un devoir absolu qui s'impose à tous les citoyens. Non seulement à l'État, non seulement aux associations, non seulement aux églises, non seulement aux partis, mais aussi, je le dis comme je le pense, aux éditeurs et à tous ceux qui participent à quelques publications que ce soit. La censure, c'est l'intervention de l'administration dans le domaine de la communication, qu'il s'agisse de la presse, de l'audiovisuel ou des publications quelles qu'elles soient. Et la protection morale de l'enfance, de la jeunesse, elle relève de la loi pénale. Et la loi pénale, c'est le juge qui la dit, ou plutôt qui l'applique. Ce n'est jamais l'administrateur. Il existe une loi, la loi du 16 juillet 1949, qui prévoit précisément de confier à l'exécutif, au ministre intérieur, donc à l'administration, le soin de régler les problèmes qui peuvent se poser au titre de la protection des jeunes, notamment de la protection des mineurs. La loi donne au ministre de l'Intérieur la possibilité, et le pouvoir et la responsabilité d'interdire l'affichage, la vente aux mineurs de certaines publications exagérément violentes ou exagérément pornographiques. Alors moi je voudrais rappeler une chose, c'est que cette loi qui est ancienne, et qui est probablement un peu dépassé, disons-le, a été voté avec la quasi-unanimité des parlementaires en 1949.
Seven, there is pressure.
L'ensemble de l'histoire de la bande FM depuis une quinzaine d'années suffit presque à proposer une sorte de portrait en creux de l'évolution politique de notre beau pays pendant la même période. C'est la raison pour laquelle nous allons revisiter, et pour une fois dans l'ordre chronologique, tous les événements qui sont survenus dans cette histoire mouvementée et zigzagante. Par exemple, point de départ un peu arbitraire et éventuellement tout de même repérable, c'est une émission très politique de TF1, le résultat des élections municipales de 1977. C'est le fameux soir en mai où Brice Lalonde révèle à la France ébahie que les radios libres, ça existe.
Je m'ennuyais comme d'habitude dans ces réunions politiques où tous ces hommes politiques bavardent en disant qu'ils sont contents des résultats.
Le grand jeu politique ne l'intéressait pas encore beaucoup, mais les autres le regardaient ce soir-là avec un œil nouveau, presque inquiet. Sa liste Paris Écologie venait d'obtenir 10% des voix. Il est là donc sur le plateau, réservé, presque timide, mais il tient résolument sur ses genoux un vieux poste de radio qui intrigue ses interlocuteurs.
Mais j'ai donc mis ça en route, je me souviens, j'étais un peu nerveux, j'arrivais pas bien à régler le volume, et je me souviens très bien de la tête de Georges Marchais qui me regardait comme s'il avait vu une vipère sortir du sac. Enfin, tous ces hommes politiques sont restés comme deux ronds de flanc, si vous me pardonnez l'expression.
C'est un véritable coup de tonnerre sur le plateau TF1. Tout le monde, journaliste, homme politique, technicien, a les yeux braqués sur le malheureux poste d'où s'échappe une espèce de chuintement. La surprise est totale et la victoire de Lalonde magistrale. Demain, la presse ne parlera plus que des radios libres.
Radio Verte, 89 MHz, 18h, 18h30.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les écolos se retrouvent mouillés dans l'affaire très emblématique de Radio Verte. C'était même un tout petit peu prémédité, comme un bouclier possible de la répression. Antoine Lefébure, initiateur du projet.
C'est-à-dire que nous, quand on s'appelait Radio X, on était embastillables tout de suite, alors que Radio Verte, plus personne n'osait nous toucher, puisque les écologistes venaient de faire un score aux élections qui était formidable. Donc on devenait intouchable, les flics ne s'approchaient pas à moins de 50 mètres, c'était tout à fait but recherché.
J'ai vaguement entendu parler de Radio Verte avec les écologistes, mais je n'ai pas écouté plus, oui.
Les écologistes industrieux ne se contentent pas d'élever leurs bébés radios, c'est qu'ils se reproduisent. Dans ces années d'avant mai 81, la bande FM voit décidément des petits hommes verts partout. Pierre Bélanger.
Comme j'étais membre des Amis de la Terre.
Georges Polinski, dans la belle région du Nord.
Je dirais tout ça est né dans les années de mémoire 74-75. À l'initiative d'un mouvement qui s'appelait les Amis de la Terre.
Non content de tout ça, les Verts sèment à tout vent et contaminent même en dehors de leur famille.
À l'époque, il y avait une radio pirate en France qui était intervenue 2 mois avant, au moment des élections municipales, c'était Radio Verte.
François Chassin, ancien journaliste, membre du Parti Républicain, donc de la majorité d'alors, est néanmoins fondateur d'une radio pirate, Radio Fil Bleu, à Montpellier.
Nous, on avait voulu donner un petit peu le pendant à la chose, alors que Radio Verte était manifestement une émanation de gauche, nous, on était des gens de droite, et on voulait essayer de faire en sorte que le pouvoir en place, qui était de nos amis, comprenne qu'il y avait un besoin d'expression et d'une émergence nouvelle, et c'est pour ça qu'on s'est engagé, tout en étant les amis du pouvoir, mais tout en étant très combattus par lui, puisqu'il a essayé de nous mettre en prison, on s'est engagé dans un processus qui nous paraissait une liberté absolument indispensable. Notre première émission, c'est le 12 juillet 1977. La bande a été saisie, je sais qu'elle a été écoutée en Conseil des ministres, dans une commission spéciale de l'Assemblée nationale, chez le préfet, chez le commissaire de police, chez le procureur de la République, bref, personne ne l'a entendu, mais tout le monde l'a écouté. Un autre souvenir le plus fou, c'est quand le troisième jour d'émission, à 7h du matin, 9 policiers ont investi notre studio avec des pistolets braqués sur nous en disant « Haut les mains, tout le monde contre le mur, police judiciaire, vous êtes en état d'arrestation ». Je dois dire qu'on a eu un petit peu un haut-le-cœur. Moi, personnellement, à l'époque, j'étais avocat. 3 de mes associés pirates étaient avocats, dont Delmas, qui était l'ancien maire de la ville, qui 2 mois après allait rentrer au gouvernement comme ministre de l'Environnement. Ça nous a fait bizarre de voir des gros pistolets braqués sur notre ventre, on n'avait pas l'habitude.
Ça va, lui, il se porte bien.
Voilà, et qu'aujourd'hui, ceux qui sont sous les bombes au Koweït, voire en Arabie Saoudite, ce sont pas les émirs, ce sont pas les potentats du pétrole, ce sont les travailleurs philippins, les travailleurs pakistanais. Et ça, le syndicalisme doit le savoir.
Des millions en ont marre d'être des coquilles.
ça peut faire du chahut.
C'était François Béranger, avril 78. Vous êtes sur les chroniques syndicales 89.4 à Radio Libertaire. Voilà donc.
En sandwich entre brouillage et inculpation, la vie des radios libres est franchement pas marrante. Mais ce genre d'épreuve forge le caractère et permet du coup de cerner plus rapidement l'ampleur du problème. Et le gouvernement Giscard, après avoir sous-estimé l'importance du phénomène au démarrage, va pouvoir apprécier la détermination des oiseaux rares qui, comme tous les guérilleros du monde, puisent dans la violence de la répression elle-même une légitimité renforcée à poursuivre le combat. Jean-Philippe Leca est porte-parole du gouvernement au moment où le Grand Cirque démarre. Et puis il devient ministre de la Culture et de la Communication, poste qu'il occupera jusqu'à la fin du septennat. 10 ans plus tard, il tente l'exercice délicat du regard dépassionné sur un passé où il n'a pas eu le beau rôle.
Ce besoin de radio de proximité, de radio associative, ne frappait pas. Je crois que les pouvoirs publics ne sentaient pas bien qu'il y avait dans ce domaine un besoin. Il n'y a rien de plus facile que d'écrire l'histoire, c'est-à-dire se dire après, voilà comment les choses se sont passées. En réalité, les besoins existaient.
C'est toujours d'Antoine Lefébure que vient l'initiative d'ouvrir un deuxième front, le droit.
J'étais avec mon avocat qui était B6, qui est devenu une autre terreur des radios libres.
Il n'y avait pas. En 76, ça s'est étalé également, en 76 et 77, de sanctions applicables à qui ferait de la radio sans bénéficier d'une autorisation préalable. Une inadvertance du législateur.
L'espoir de voir le monopole tomber en désuétude pour cause de vice de forme retombe. C'est pourtant ce scénario très pratique, permettant tout le monde de sauver la face, qui avait servi dans le cas italien 2 ans plus tôt. Mais manifestement, le président français ne veut pas. Et Giscard fait voter, à peine les législatives de 78 passées, une loi qui complète la précédente des fameuses sanctions manquantes. Ironie du sort, c'est Jean-Philippe Leca qui, dans le privé, avait manifesté une espèce de neutralité bienveillante, notamment au cas Radiophile Bleu, c'est Jean-Philippe Leca qui se retrouve exécuteur des basses œuvres.
Alors c'est une loi dont il faut bien voir qu'elle ne faisait, ça c'est un système très français, elle ne faisait que rappeler la loi qui existait depuis toujours. Mais il ne faut pas limiter à l'aspect répression, et je répète, la répression... elle est l'envers de toute réglementation, et on le voit bien en 91, télé ou radio Freedom à La Réunion, il y a bien répression de la même façon. Donc la répression, elle n'est pas attachée à un régime, à une façon de voir les choses, elle est attachée au fait qu'à partir du moment où il y a une réglementation, l'État la fait respecter.
Très rapidement, le conflit radio libre monopole se transforme en une image projetée du conflit droite-gauche qui fait rage et qui fait pas dans la dentelle. C'est l'époque qui veut ça. Il y a cela dit quelques exceptions, et notamment sur les bancs de la majorité, c'est-à-dire la droite, où l'on relève Alain Madelin, qui, pendant les discussions autour de la loi Leca en 1978 à l'Assemblée nationale, défend la liberté des ondes et donc des radios FM en particulier. Portrait de l'oiseau rare, moyennement langue de bois par Annick Cogent.
Cet homme de droite est déroutant. Le nez de demi-mêlé, le regard insolent et la mèche rebelle, il pourrait être voyou, tout prêt à la castagne, si ce n'était ses fossettes enfantines et son rire enjôleur. Redoutable bretteur dans les joutes parlementaires, champion de l'amendement, spécialiste de l'obstruction, ce pourrait n'être qu'un polémiste, opportuniste et théâtreux s'il n'était ses connaissances, son activisme, sa passion pour les livres, les idées, les dossiers. Il n'a pas fait Sciences Po, ni l'ENA, et n'est pas du Sérail, puisque son père était ouvrier communiste chez Renault. Il se moque de la France des châteaux et des tailleurs Chanel, ce sont ses mots. Giscard et sa cour lui donnent de l'urticaire. N'empêche que ce sont les Giscardiens et qui lui offriront un giron. Un giron sans doute plus confortable que le mouvement d'extrême droite Occident, dans lequel il a milité activement pendant sa jeunesse étudiante, participant au commando de choc qui terrorisait le quartier latin à la fin des années 60. De là une réputation de facho que lui colle volontiers la gauche, sachant que ce n'est pas si simple et que cet homme complexe, provocateur, n'est pas dénué de séduction. Son credo est celui du libéralisme à tout craint. Il fustige pêle-mêle la bureaucratie administrative, les ententes patronales, le système centralisateur. Et mettre en doute la sincérité de son combat pour la liberté individuelle serait s'exposer à ne pas comprendre pourquoi cet homme de droite a voté la loi Veil pour l'avortement, a défendu dès 1978 les radios privées, critiqué violemment le projet Perfit, sécurité et liberté, ou approuvé Badinter lors de la suppression des tribunaux d'exception. Il est incapable de mettre ses idées dans la poche. Le contraire d'un godillot.
Vous savez, aux États-Unis, on dit que les ondes hertziennes sont un espace public. En France aussi, on dit que c'est un espace public, tout le monde le disait. Ça veut dire quoi? En France, un espace public, ça signifie que ça appartient à l'État. Aux États-Unis, ça signifie que ça appartient à tout le monde. C'est une différence de conception. Une pelouse publique en France a été longtemps une pelouse sur laquelle on n'avait pas le droit de marcher, parce qu'elle appartenait à la collectivité publique. Aux États-Unis, une pelouse publique, c'est une pelouse sur laquelle tout le monde peut marcher. J'ai une très grande confiance dans la liberté. La liberté, bien sûr, elle est toujours brouillonne. Il y a des entreprises qui se font, il y a des entreprises qui meurent. J'ai vécu ça comme une explosion de liberté. Mais tout naturellement, les choses retrouvent leur cours. Et en ce qui concerne la liberté de la radio, il en a été un de même qu'en ce qui concerne la liberté de la presse.
L'invité de la semaine, c'est Madeleine Bamy, la dernière compagne de Jacques Brel, une ancienne Claudette. Personnage intéressant à suivre tous les jours de la semaine, mais c'est pas tout.
Il y aura également cet après-midi aux alentours de 16h, ne ratez pas, ce sera Claude Pieplu à propos de l'homme gris. Il est 7h50, on retrouve tout de suite Yves Chebat pour la revue de presse.
Il n'y aura pas, ou si peu, de manifestations cet après-midi à Paris. Du moins, si l'on en croit la première page de François. Ah, si, tout de même, bien planqué en petits caractères. Et en un peu plus gros, l'événement du jour, toujours selon François, attention aux embouteillages. Nous voilà bien renseignés. Pour plus de détails, reportez-vous également à la manchette du Parisien Libéré, Paris dans le potache. Autre angle de tir, Jacques Faisan. Jacques Faisan, le dessinateur du Figaro, qu'on a connu mieux inspiré, fait dire aux banderoles de la manifestation, non à la sélection, mais aussi non à Hino, non à Noah, non à Platini, suivez son regard et vous arriverez immanquablement à cette question que pose Robert Toubon dans le quotidien de Paris. Mais comment peuvent-ils encore refuser l'idée d'une orientation ou d'une sélection alors qu'ils savent que la moitié d'entre eux ne passent pas la barre du premier cycle et que nombre des autres échouent sur le marché du travail? Quelques mots sur la nomination des nouveaux PDG des chaînes de télé et de radio publique hier par la CNCL, la commission qui remplace la Haute Autorité. Le Figaro, qui a décidément le mot pour rire ce matin, écrit « Comme l'a réaffirmé avec force Jacques Chirac dimanche, le gouvernement s'interdit désormais toute ingérence ». Il n'y a pas vraiment grand monde pour y croire ce matin. Le ressac, titre Libération. Jacques Chirac avait souhaité leurs élections. La CNCL a obtempéré, observe l'Humanité. Les yeux fixés sur le passé, tranche le matin. Retour aux vieilles pratiques, dit la Nouvelle République. Une faute, constate également Ouest-France. Même si Pierre Lemarque remarque que les socialistes n'avaient pas su non plus se débarrasser de ces pratiques condamnables.
Merci Yves Chebat. On vous retrouve demain, bien sûr, pour cette dernière fois de la semaine à 7h50. Il est 7h50.
Les radios comme la politique ont ceci de commun qu'elles ont tendance à croiser l'histoire plus souvent qu'à leur tour. C'est ainsi que dans les grands mouvements sociaux de la fin des années 70, bien sûr, les radios libres ont leur mot à dire, au pluriel bien entendu. C'est l'histoire de Lorraine Cœur d'Acier, radio des sidérurgistes, montée entre autres par Marcel Trias, qui n'est pas à proprement parler une radio politique puisqu'elle était l'émanation de la CGT et que, comme chacun sait, il s'agit là d'un syndicat parfaitement indépendant. n'empêche.
Cet hiver 78-79 est l'un des plus rigoureux de l'histoire de Longwy. Car en même temps que le froid, c'est une véritable torpeur qui est tombée sur la ville. 21 000 licenciements sont annoncés dans la sidérurgie. C'est l'agonie d'une région et d'une ville. Grâce à l'équipe de Radio Verte Fessenheim, la CFDT crée SOS Emploi, une petite radio clandestine qui émet quelques heures par jour et permet des débats. Mais le conflit de Longwy méritait beaucoup mieux que cela. Et la CGT, qui sort de son 40e congrès, va saisir l'occasion de frapper un gros coup pour tonifier son image. Une radio de lutte, populaire et connue de tous, sera chargée de symboliser la résistance ouvrière à la casse des entreprises. Son antenne sera fixée au clocher, son studio installé dans une salle de la mairie. Elle s'appellera Lorraine Cœur d'Acier. Son contenu d'abord est banal et le ton très convenu pour une radio syndicale. Et puis quelque chose de mystérieux va se passer et les habitants vont prendre possession de la station. La salle de mairie est noire de monde et devient lieu de rencontres et de fraternisation. Le micro est ouvert à tous et les femmes, depuis si longtemps confinées dans leur rôle d'épouse, vont se mettre à parler. Tous les tabous vont peu à peu sauter. On évoque l'Algérie, on invite Cohn Bendit, on parle des pays de l'Est, des transistors sont installés dans les ateliers et les magasins, le vendeur solde même tous ses postes FM pour les rendre accessibles et plus d'une vingtaine de volontaires vont apprendre la technique radio. Toute la ville vibre à l'unisson. Les pouvoirs publics, pas plus que la centrale parisienne, ne le supporteront. Alors les habitants se battront. Une manifestation contre le brouillage de la radio tournera même à l'émeute une nuit d'une rare violence. La ville se réveillera dévastée, ahurie. À Paris, le Parti communiste et les responsables de la CGT ont depuis bien longtemps compris que la radio ne sert plus leurs intérêts et doit être fermée. Les sidérurgistes se résisteront jusqu'au bout, mais Lorraine Cœur d'Acier finira étouffée.
Tout d'un coup arrive l'affaire de la sidérurgie Lorraine. Et voilà, on a débarqué à Longwy en pleine effervescence. C'était juste après l'annonce de plusieurs milliers de licenciements. Je me souviens plus des chiffres, mais enfin c'était vraiment tout d'un coup un coup de tonnerre quoi sur la région.
L'opération Radio Riposte fait partie en effet de la campagne que nous avons commencé d'engager.
Entre en scène le Parti Socialiste. Inutile de vous dire que la vendetta fait rage entre la formation de François Mitterrand et l'État giscardien. Le tout après les législatives de 78 et avec en ligne de mire, droit devant, la présidentielle, bonne ambiance. 28 juin 1979, émission depuis les locaux du Parti Socialiste de Radio Riposte.
Nous voulons absolument attirer l'attention des Français sur les manquements, sur les atteintes à un droit fondamental qui est celui de l'information. Nous pensons que la plus grande partie, sinon la totalité, grande majorité des moyens d'information et les plus puissantes, sont totalement dans les mains du pouvoir exécutif et particulièrement du président de la République française. Alors nous voulons attirer l'attention des Français pour qu'ils en prennent bien conscience. Nous y parviendrons et l'opération Radio Riposte fait partie, en effet, de la campagne que nous avons commencé d'engager.
Scène de genre. Le plus grand parti de France vient à son tour tirer les moustaches du tigre monopole. Résultat des courses, inculpation du premier secrétaire François Mitterrand et saisie du matériel. Autre scène de genre, la même, mais vue depuis le ministère de la Communication, dont l'occupant était à ce moment-là Jean-Philippe Leca.
Comme la France aime bien aussi les oppositions, les drames, il y a eu un certain nombre de scènes grandioses, comme la saisie de la radio du Parti Socialiste, etc., qui ont animé le paysage.
Et encore une fois, la même, depuis toujours le ministère de la Communication, mais quelques années plus tard, avec le successeur de Jean-Philippe Leca, Georges Filliou.
Après un certain nombre d'avertissements et de sommations, après une décision de justice, après qu'ait été requise l'intervention des forces de police, voilà, un commissaire de police avec quelques hommes en uniforme a pénétré à force, puisque la porte était fermée, dans les locaux sièges du Parti Socialiste. Ce qui, par parenthèse, était un précédent, qui heureusement ne s'est pas renouvelé.
Voici un flash spécial.
Le 24 août 1979, sur Radio Riposte, François Mitterrand déclarait « Dans l'histoire de la France, il y a toujours eu des moments où les hommes ont dû prendre des risques pour la liberté. Aujourd'hui, les radios libres n'ont pas oublié. Elles sont prêtes à prendre tous les risques pour conserver leur liberté.
Liberté.
Taisez-vous.
Radio Libre ici, Riposte. Radio Libre ici, Riposte. Liberté.
Taisez-vous.
Radio Libre ici, Riposte. Radio Libre ici, Riposte. Nous continuerons d'exister. Nous continuerons d'être libres.
L'entrée de forces de police au siège d'un parti politique.
Et de qui est le scénario pervers ? Antoine Lefébure.
Bien sûr, on les a piégés, on leur a filé un émetteur, on les a incités à faire une émission pirate, et eux, ils ont cru s'en tirer en disant « Nous faisons une émission pirate, mais nous ne sommes pas pour les radios libres, nous sommes contre le monopole actuel, nous sommes... c'est une émission de protestation contre le monopole antidémocratique pour un monopole démocratique. » Personne n'a rien compris, tout ce qui est resté, c'est Mitterrand a fait une radio pirate, donc maintenant qu'il est au pouvoir, il va autoriser la radio libre.
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Dimanche 10 mai 81, toujours un peu plus tard dans la soirée.
Mais, Paris.
La Bastille, c'est le lieu où le PS a décidé de célébrer la victoire inouïe de la gauche après plus de 20 ans d'opposition. Ainsi, ce qui était hier encore un slogan est devenu, par la magie des urnes, la réalité. Et nos radios libristes scandent avec un enthousiasme qu'on devine particulier l'air des lampions.
On a gagné ! On a gagné ! On a gagné !
Giscard, au chômage !
On n'était pas pour François Mitterrand, on était pour la FM. Jeu de mots. Bon, voter FM, voter pour la FM. Et on faisait des... On avait des arguments de basse propagande. J'avais un générateur sur ma table de mixage. Je faisais Giscard égale et Mitran, c'est FM. Bon, voilà, c'était un petit peu la campagne électorale de Radio Libre.
Jean-Louis Bessy, l'avocat des radios libres, est déjà plein d'espoir et ne perd pas son temps.
Le soir du 10 mai, avec beaucoup d'autres, je suis au siège de mon parti, le Parti Socialiste. Rue de Solferino depuis pas très longtemps à l'époque. C'est la liesse, on est très content. C'est l'endroit idéal, tous les dignitaires sont là. Les radios qui étaient pirates et qui sentent qu'elles vont être très prochainement tolérées sont nombreuses pour fêter la victoire, n'est-ce pas ? De Patrick Van Troyen, Radio Ivre, Radio Ici et Maintenant. Ils essayent de faire dire, naturellement, aux dirigeants qui sont là, que c'est un oui franc et massif à l'abandon du monopole qui sera prochainement traduit dans la législation. C'est un jeu extrêmement bon enfant, dans une ambiance de chaleur extrême. Je revois notamment Georges Filiou, que je n'avais pas vu pendant un certain temps. Tout cela est plutôt encourageant. Nous sortons plutôt optimistes.
Bonjour, aujourd'hui le 7e club des nouvelles, nous recevons Paul Quillès, ministre de l'urbanisme et du logement. Paul Quillès, bienvenue au club des nouvelles, le club qui regroupe 100 radios privées locales. Première question, puis nous tournerons, nous ferons ce tour de table pendant une heure. Paul Quillès, qu'en est-il exactement, ou le plus précisément possible, de la relance du bâtiment ? Et y a-t-il derrière une crise en tout cas, est-ce que cette crise est derrière nous ? Elle est-elle devant ? Qu'est-ce qu'il en est du bâtiment en France ? Qu'est-ce qu'il en est du logement ? Question un peu vaste.
Je vous remercie de me poser cette question qui correspond, me semble-t-il, à une préoccupation à la fois sociale et économique. Préoccupation sociale parce que on ne construit pas des logements simplement pour faire fonctionner des entreprises, pour relancer l'économie, encore que c'est important. Vous connaissez le fameux adage, quand le bâtiment va, tout va.
aux grands hommes la patrie reconnaissante. Au Panthéon, le président nouveau est arrivé avec des fleurs. Nous sommes le 21 mai, jour officiel de la passation des pouvoirs. Cette fois, plus moyen de douter, l'alternance, vieux serpent de mer de la 5e République, est devenue réalité. Un petit peu plus tard, il y a photo à l'arrivée des nouveaux ministres du premier gouvernement morois. La légalisation des radios est manifestement une priorité des nouveaux dirigeants qui en font presque un symbole du changement et de l'alternance. C'est donc seulement 4 mois après l'élection de François Mitterrand que le projet Filiou se retrouve en piste pour le Parlement, où le PS, faut-il le rappeler, dispose de la majorité absolue. Dans ces conditions, le suspense ne paraît pas insoutenable et la dernière étape du projet au Conseil des ministres ressemble presque à une formalité.
Je me suis rapidement, en préparant la loi, rendu à l'idée, après pas mal de consultations et de réflexions, me suis rendu à l'idée que la publicité était nécessaire. Parce que le raisonnement que je tenais était que une liberté n'a de sens que si on lui donne matériellement la possibilité de s'exprimer. Le Parti socialiste était partagé, le groupe socialiste était plutôt favorable à l'introduction de la publicité parce que les députés étaient tous plus ou moins soumis aux demandes des radios locales de leur circonscription, de leur département. Et finalement, c'est un arbitrage du Premier ministre du moment. Un jour, en réunion interministérielle, Pierre Mauroy a tranché brutalement en disant « Il n'en est pas question, je comprends tes arguments, mais j'ai bien réfléchi et c'est non. » Et son argument, enfin, disons le slogan par lequel il l'exprimait, c'était « Je ne veux pas de radio
free. » Nous sommes d'accord pour des radios libres.
Nul, mieux que Pierre Mauroy, ne prononce le mot « socialisme ». Cela vient du tréfonds de lui-même, c'est à la fois sa culture, son histoire, sa filiation, j'allais presque dire sa religion. Car Pierre Mauroy est un homme entier, convaincu en arrivant à Matignon au printemps 81 d'être dépositaire de l'héritage d'une vieille famille, certain de sa légitimité et comme investi de mission. Et parmi celles-ci, protéger et favoriser la dynamique du mouvement associatif français dont il est assurément l'une des grandes figures. C'est lui qui a créé la Fédération des clubs Léo Lagrange, lui qui croit de toutes ses forces à la vocation éducative et sociale des grandes associations qui atteignent la jeunesse par le sport, la culture, les loisirs, lui enfin qui soutient le bénévolat, cet engagement de gens généreux, je le cite, qui se battent par idéal et pour défendre des valeurs vouées à disparaître.
Et tiens, dis donc, les socialistes, ils n'ont pas interdit que les sociétés privées fassent payer les autoroutes.
Si, ils ont dit on va le faire, mais on attend toujours.
Ils l'ont pas fait.
Non, ils l'ont pas encore
ils
fait.
Ils n'ont pas le temps.
Ça doit être ça.
C'est comme les télévisions et les radios privées autorisées avec de la publicité, ils n'ont pas le temps. Alors, ils ont donné ça à n'importe qui, en attendant, ils se sont dit, bon, on va le donner... Qui c'est qui fait rien? Bon,
Filiou, venez-la à vous, là-bas, avec les lunettes. Il est aussi là.
Vous allez vous occuper de l'audiovisuel.
Oh non, monsieur, parce que c'est un truc à se faire passer pour un con. Venez là, vous allez le faire.
Oh, qu'est-ce qui nous fait chier, celui-là, alors, depuis des années.
L'alternance, ça veut dire, devinez quoi, que les rôles s'inversent. C'est donc que la majorité d'hier devient l'opposition et que, par conséquent, elle adopte très naturellement les mêmes mauvaises manières en s'installant d'une façon plus ou moins claire ou plus ou moins officielle sur la bande FM. C'est vrai que le monopole avait du bon, mais puisqu'on n'a plus le pouvoir, profitons donc de ces espaces de libre expression. Il y a un certain nombre de cas emblématiques dans le genre. Bien entendu, le plus célèbre, tout au moins en France et pour les gens qui ont eu la chance de l'entendre, c'est le cas Solidarité. Annick Cojan.
de cette rediffusion demain matin, bien sûr, à la même heure. Tout de suite, je vous propose un message de Bernadette Dangelier.
Radio Solidarité vient d'être victime d'une agression. Radio Solidarité, la radio libérale, vient de se voir notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, le retrait de son autorisation d'émettre. Cette mesure, autant que celles qui l'ont précédée, n'est pas légale. En effet, les suspensions d'autorisation de la Haute Autorité, de la CNCL et du CSA ont toutes été déclarées illégales. Et malgré tout, ne tenant aucun compte de ces décisions de justice, le CSA, donc, nous notifie ce retrait. Radio Solidarité a des idées, à une époque où il est mal noté d'en avoir. Est-ce pour autant qu'on doit lui interdire de faire passer son message? Alors pour défendre avec foi et affection notre radio, qui est aussi une liberté constitutionnelle, puisqu'il s'agit de la liberté d'expression, soyez nombreux à nos côtés, demain, mercredi, à 13h, au pied de la tour Reflet.
Claude Villers, producteur à France Inter et créateur du défunt programme Pacifique FM.
Il ne faut jamais demander à l'État d'intervenir pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce que l'on doit dire, qu'est-ce que l'on ne doit pas dire. Il ne faut jamais demander l'autorisation. Il faut le faire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur le dessus du panier, ben, ils n'ont rien demandé.
Transport, grève des bus dans la banlieue nord-est de Paris. La fin du mouvement est prévue pour ce soir. Le trafic devrait être normal demain. Et transport toujours, suite à un mouvement de grève CGT, le trafic sur la ligne 13 du métro est perturbé. Seulement 70% des trains roulent.
Tour Eiffel, 95.2.
Je leur ai fait confiance. Ils m'ont dit, voilà, comme ça, c'est très bien, vous êtes de profil, on voit vos yeux, vous regardez au loin, que fait un président? Il regarde au loin. Bon. Et puis les gens m'ont dit, tout ça, c'est très joli, mais pourquoi vous n'avez pas mis votre nom? C'était une remarque de bon sens.
Eh bien,
hein, c'était une remarque de bon sens. Alors, la deuxième fois, on a fait les affiches, on a mis le nom. Comme ça, personne ne peut plus se tromper. Et une troisième fois, il y a mon ami Villiers qui a fait d'autres fiches, d'autres affiches, puisqu'il y avait trois séries d'affiches. Vous savez, De Gaulle disait, il y a Charles et De Gaulle. Hein. Moi, je me dis, il y a Raymond et Barre. Hein. C'est comme ça, c'est sans toute proportion gardée, bien entendu.
«
Le moment où l'on constate assez clairement que quelque chose a changé dans les rapports entre les FM et les hommes politiques, c'est bien l'élection présidentielle de 1988, car en effet, les candidats du premier tour, et non des moindres, n'hésitent pas à se fendre d'un petit voyage sur l'une ou l'autre des stations actuellement en circulation. C'est ainsi qu'on relève Raymond Barre sur Skyrock, mais oui, bien sûr Jacques Chirac sur Énergie dans un grand moment de radio où il exprime tout le bien qu'il pense de Madonna. Il y a aussi l'apparition remarquée de François Mitterrand, alors candidat sortant, sur les ondes de Pacific FM au cours d'une émission extrêmement sérieuse et très politique dans laquelle François Mitterrand laisse parler son cœur de père.
Bonjour, c'est pour nous un événement de nous recevoir. En effet, c'est la première fois qu'un homme politique s'exprime sur Énergie et c'est aussi la première fois qu'un Premier ministre s'exprime sur une grande radio FM. Je vous informe que notre entretien est diffusé simultanément par satellite dans toutes les stations Énergie de France. Monsieur le Premier ministre, nous l'avons déjà dit sur notre antenne, vous avez contribué de façon décisive à la venue de Madonna en France pour deux concerts, l'un à Paris et l'autre à Nice, concert présenté par Énergie. Alors, pourquoi ?
D'abord, je voudrais saluer Énergie, vous remercier d'être venu. Il est normal, vous dites que c'est la première fois que je m'exprime sur une radio FM, il est normal que j'ai pris la plus grande pour m'exprimer pour la première fois. Madonna, l'intervention décisive, n'exagérons rien, n'est-ce pas ? L'intervention décisive a été la décision que Madonna a prise de venir chanter en France. Bien entendu, quand je l'ai appris, j'ai mis tout en œuvre pour faciliter cette manifestation. Pourquoi ? Simplement parce que Madonna est une super artiste, qu'elle est aimée par l'immense majorité des jeunes dans notre pays, et des moins jeunes aussi d'ailleurs, et la preuve c'est que je l'aime bien, et que j'ai pensé surtout à la fin du mois d'août, imaginant notamment que certains jeunes n'avaient pas forcément la possibilité de prendre des vacances aussi sympathiques qu'ils le souhaiteraient, que c'était une occasion de leur donner la possibilité de voir un spectacle de grande qualité, et un spectacle qu'ils aimaient.
Monsieur le Premier ministre, la France est l'un des rares pays d'Europe où les disques français résistent à la vague anglo-saxonne. Quelles mesures entendez-vous prendre pour aider la chanson française ? Par exemple, envisagez-vous de faire baisser la TVA sur les disques et de favoriser la construction de nouvelles salles de concert ?
Pour les salles de concert, vous le savez, nous avons à Paris engagé une politique de cette nature pour notamment des salles de moyenne importance, pour l'expression en particulier des jeunes artistes. Et dans le cadre de la politique du ministère de la Culture, j'ai tenu à ce que des incitations, des subventions, des aides soient apportées aux différentes villes qui entendent construire des salles de concert. Et s'agissant du disque, c'est une grande industrie française qui a effectivement résisté avec courage à l'offensive anglo-saxonne. Alors, il y avait, c'est vrai, une sorte de handicap fiscal dénoncé depuis longtemps. Alors, Énergie est toujours passionnée pour la défense de la musique et de la chanson française. Énergie, vous l'avez souligné, a bien voulu se déranger pour venir m'interroger. J'ai donc pensé qu'il convenait tout de même que ce ne soit pas pour rien et de réserver à votre antenne une nouvelle, un scoop. Et j'ai décidé ce matin, en liaison d'ailleurs avec votre venue, vous le comprendrez, j'ai décidé, au terme d'une étude assez longue, parce que c'est une mesure coûteuse, et sur la proposition à la fois de M. Léotard et de M. Balladur, de ramener le taux de la TVA sur les disques au taux moyen. Vous savez,
les données n'ont plus été les mêmes. Et le basculement vers le privé, vers le commerce. Mais pour répondre de façon précise à votre question, je tiens à rappeler, vous avez bien voulu le dire tout à l'heure, que je me considère comme le père, je n'emploie pas d'autres termes, comme le père de la liberté des ondes. Des plus de 1000 radios privées se sont créées après l'autorisation que j'ai obtenue du gouvernement socialiste de l'époque. Ensuite, j'ai autorisé la publicité. Bon, ensuite, j'ai fait autoriser les télévisions privées. Ensuite, le gouvernement qui a succédé, après 86, je le rappelle, a privatisé TF1. Alors, je pense que repartir à la conquête de TF1 par une nationalisation, c'est perdre beaucoup de temps. C'est peut-être pas absolument indispensable. Mais dans ce cas-là, il faut que le cahier des charges soit scrupuleusement appliqué.
J'ai 10 ans ou la folle histoire des radios FM. Avec Annick Cogent, représentant le quotidien Le Monde, Frédéric Hubert, représentant Europe 2, les archives sont de la collection de Joël Girard, les interviews sont coordonnées par Nathalie Leruche, assistance technique et sanitaire Xavier Joly.